qui est-ce qui a dit l'ennui naît de l'uniformité?
On va demander à nos amis auditeurs sur Twitter. Vous nous donnez la réponse, on la donne demain à 8h16.
Et alors, par exemple, vous pourrez gagner le roman d'Olivier Norek, Entre deux mondes, qui est publié chez Michel Lafon. Formidable livre sur la police avec la question des réfugiés à Calais. Il est publié ces jours-ci. Olivier Norek est notre invité. Il connaît très bien la police, puisqu'il y a peu encore, il était lieutenant de police. À côté de lui se trouve le chercheur, le politologue Sébastien Rocher. J'ai l'impression que la chronique de Frédéric Say, son billet politique, vous était un peu dédié. C'est-à-dire qu'on a effectivement un certain nombre de politiques dites à la carte, comme Frédéric le soulignait. Et votre discours sur la police en disant finalement il faut une police qui satisfasse les citoyens, est-ce que ça ne revient pas à utiliser, alors je ne sais pas, les uns diront la novlangue macronienne, les autres le vocabulaire actuel du pouvoir?
Je l'ai fait avant de savoir que M. Macron serait candidat et qu'il a été élu. Ça fait 15 ans que je répète un petit peu ça. Donc il y a une fenêtre politique qui est favorable à ces idées, qui ne sont pas uniquement les miennes, bien sûr. Et voilà, la décentralisation, la déconcentration, c'était le grand projet de Valéry Giscard d'Estaing. Donc je crois qu'il faut remettre ça en perspective. Il ne peut pas le faire. La gauche arrive en 82, elle vote les premières lois de décentralisation qui seront poursuivies jusqu'à aujourd'hui. Donc la marge de progression, elle est là. Pourquoi on forme des officiers, des commissaires de police si longtemps, ils ont une première maîtrise, puis ils passent encore un an à deux ans dans une école, si c'est pour les entraîner à lire les circulaires du ministre et à prendre les instructions auprès du préfet? Si on forme des gens si longtemps et si consciencieusement, c'est pour qu'ils utilisent leur intelligence localement. Donc ça suppose par exemple qu'ils réfléchissent aux politiques locales de sécurité dont les gens ont besoin localement, qu'ils ne disent pas que la bonne politique, c'est celle qu'on leur demande de faire depuis Paris. C'est là qu'il y a les gisements d'efficacité et de légitimité démocratique.
Mais est-ce qu'elle ne doit pas, encore une fois, s'appliquer uniformément sur le territoire
Est-ce que vous voulez installer des antennes de, par exemple, de commercialisation de téléphones mobiles uniformément sur le territoire? Ça ne veut rien dire.
Je pense que justement, on n'est pas face à l'installation de téléphones mobiles, on n'est pas face à des hypermarchés. Si je vous disais, la justice est aujourd'hui une justice qui doit s'adapter aux réalités des territoires, ce que l'on attend,
bien sûr, mais ça a été tenté par plusieurs ministres de la justice de réformer la carte judiciaire. C'est un des gros dossiers, ajuster l'appareil d'État aux besoins locaux, en taille, en flexibilité, tout ça, c'est une nécessité.
Les besoins, c'est autre chose. Ça, on est bien d'accord sur les besoins, mais la philosophie, elle, de la justice ou de la police, elle doit être la même partout sur le territoire.
La philosophie, elle est dans la Constitution. On ne la change pas. Hein, la police doit être rendue, doit être faite au bénéfice du peuple. Et le juge traite en toute impartialité du pouvoir politique suivant les lois. La philosophie n'est pas changée. Ce qui change, c'est les modalités d'application pour augmenter l'efficacité et la légitimité. Mais on ne change pas du tout le cadre constitutionnel dans lequel on se situe.
Frédéric Saïs.
Mais alors, si on va vraiment au bout de cette logique d'adaptation au territoire, il y a un système qui existe ailleurs dans le monde et qui pourrait être adapté en fonction de ça. Pourquoi est-ce qu'on n'élirait pas le commissaire de police localement comme on élit les shérifs? Ce serait pour le coup s'adapter aux particularités locales.
C'est une des solutions qui a été utilisée, donc elle est utilisée pour les shérifs. Les shérifs, c'est quoi? C'est la gendarmerie, en fait, pour expliquer aux gens ce que c'est que les shérifs. Hein. Donc, on a trouvé cette solution. Une autre solution, c'est ce que font les Anglais, c'est d'élire un responsable. Il y a, on va dire, le maire de la police, mais il n'est pas maire de tous les autres services.
Donc, vous seriez pour vous cette réforme?
Personnellement, j'y serais pas forcément favorable parce qu'elle est très incompatible avec le système français qui est tourné autour du préfet, une invention du grand démocrate qui était Napoléon. Donc, on a un système qui est piloté depuis Paris, doublement avec une double ligne hiérarchique. Le commissaire en compte à Paris, le préfet en compte à Paris. Donc, moi, je pense qu'il faut rééquilibrer ce système. Il faut le tourner vers le bas, mais on ne va pas défaire complètement les institutions en 4 ans, de toute façon. Donc, voilà, c'est plutôt une notion de rééquilibrage pragmatique.
Et alors, pour savoir ce que pense la police, quelqu'un qui fut policier et même lieutenant de police, qui aujourd'hui est romancier, Olivier Norek, vous livrez dans vos romans, qui sont donc des romans policier, faut-il le préciser, une vision quand même extrêmement noire de la police, avec des policiers désespérés qui sont écartelés entre des considérations humaines et le dénuement de la police, la dureté des temps.
Je parle pas des policiers en général. Malheureusement, dans mon livre Entre deux mondes, je parle des policiers de Calais. Et dans mes premiers romans, je parlais des policiers du 93. Alors effectivement, j'ai une vision un peu compliquée de ce métier parce que justement, je parle de policiers qui ont affaire à un concept d'absence sur le territoire. Et c'est exactement ce dont on parle actuellement avec la PSQ, de présence dans le service public, dans l'espace public. Et ben là, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que, et je fais aucun lien entre les deux, hein, mais à Calais, il y a un camp de réfugiés dans lequel la police ne peut pas travailler, et on parle de zones de non-droit dans certains quartiers défavorisés ou dans certaines cités. Donc effectivement, j'ai une notion, je parle d'une police qui justement a du mal à agir, ne peut pas agir. C'est-à-dire qu'on est très 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 loin de cette fameuse police de sécurité du quotidien, parce que on est sur des territoires où on ne peut même pas faire de police.
Alors justement, prenons l'exemple de Calais-Olivier Norek, parce que celui-ci est effectivement un exemple que vous connaissez bien, parce que ça fait exactement un an, le 24 octobre 2016, 7400 migrants étaient évacués de la jungle de Calais. Et alors, vous décrivez une situation qui est quand même tout à fait étonnante, c'est-à-dire que vous décrivez une police qui est là-bas, incapable d'assurer la sécurité des personnes sur le territoire, qui est en quelque sorte aux prises avec une législation qui est une législation unique, puisque vous expliquez qu'ils ne peuvent pas faire appliquer la loi. C'est comme ça que ça se passe ?
Alors, ils peuvent pas assurer la sécurité des personnes. Si, ils peuvent assurer la sécurité des Calaisiens, tout du moins.
C'est pour ça que j'ai dit présent sur le territoire.
C'est ça. Le problème, et c'est ça qui les heurte, c'est qu'ils ne peuvent pas assurer la sécurité de ces migrants. Et c'est ça qui les ennuie, parce que ce sont des pères de famille, ces policiers. L'ADN du policier, c'est pas tirer de la lacrymo sur des gosses, des femmes et des hommes pour les empêcher de monter dans des camions. Vous imaginez bien que, quand le flic signe le contrat pour le public, à l'aide du public, ils ne signent pas ce contrat-là On leur demande de gérer l'ingérable, en fin de compte.
Pourquoi ?
Bah, parce que c'est une béquille, comme quand on demande aux policiers du 93 de gérer les cités, en pensant qu'il suffit juste soit de rajouter des policiers, soit de faire de plus en plus de répression, et c'est là où on en vient au concept de prévention, qui est quand même assez utile, de présence, et en fait, de familiarité, de fait de savoir que le bleu, le policier, doit devenir une image de quelque chose de quotidien, et pas de quelque chose de surprenant. Alors donc, pour en revenir aux policiers de Calais, on a créé une sorte de monstre qui est le réfugié potentiel. C'est-à-dire que on ne peut pas l'arrêter, parce que si on l'arrête, on l'introduit dans le système judiciaire français, et dès lors, en fait, on l'introduit en France, et ça, visiblement, on ne le veut pas. Mais on ne peut pas non plus l'aider, parce qu'il n'est que réfugié potentiel. Et on ne peut pas l'arrêter non plus. Enfin, c'est très particulier, ce qui fait qu'en fait, les policiers regardent ces réfugiés qui sont pour la plupart des héros qui ont traversé 5, 6, 8, 10 000 kilomètres pour venir ici, vers cet Eldorado de l'Angleterre. Et puis le soir, ils montent dans des camions, ils essaient de monter dans des camions, et les policiers, pour les en empêcher, leur tirent de la lacrymogène dessus. 1 800 000 euros de lacrymogène dépensés en un an, plus de lacrymogène dans la réserve dans le commissariat de Calais, dans la réserve du Raid. C'était l'État il y a un an. Mais ces policiers-là, ils sont pas bien, ils sont malheureux, évidemment, puisque c'est pas leur job. Résultat, on a des policiers dépressifs, on a des policiers qui font des tentatives de suicide dans un commissariat de Calais qui est fermé à la mutation.
Alors c'est ça, vous décrivez là aussi à Calais, vous prenez donc une équipe, alors l'un est malade, l'autre est en burn-out, c'est comme ça que ça se passe ?
Oui, tout à fait. Alors pourquoi ? Comme je l'ai dit, parce que ce sont des pères de famille, parce que ce sont des frères, parce que ce sont des cousins, ce sont des gens qui ont vraiment...
Enfin on peut penser ça même quand on n'est pas père de famille.
D'ailleurs. Mais c'est exactement ça, mais bien sûr, bien sûr. Mais ce que je veux dire c'est pas l'ADN du policier de faire ça, et donc obligatoirement ils tombent en dépression, ils sont malheureux. Et moi je disais à ces policiers, bah dans ces cas-là, changez d'équipe. S'il est dépressif, s'il est mal dans sa peau, changez d'équipe. Et le chef de groupe me dit, mais alors quoi, je prends des policiers qui aiment ça, qui aiment tirer de la lacrymo sur des gens.
Fermé à la mutation, ça veut dire que
c'est très très compliqué d'en sortir.
C'est pas à la carte donc cette police-là.
Non, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils se sont retrouvés enfermés dans ce commissariat de Calais. Si effectivement on avait ouvert à la mutation, bah tout le monde serait parti. Parce que ça n'est pas du travail de policier que de tirer de la lacrymo sur des familles de réfugiés. Ce sont des gens qui ont fui la guerre, et nous on les accueille à la lacrymo, c'est juste pas possible. D'un autre côté, on nous donne pas non plus les moyens de le faire correctement. Il faut quand même savoir que dans la jungle de Calais, on est quand même, le gouvernement est quand même allé jusqu'en appel pour savoir si on mettait de l'eau chaude ou pas dans le camp. On en est là de la déshumanisation de ces gens-là. Et alors, qu'est-ce qu'on donne comme outil aux policiers ? Absolument rien. C'est pour ça que, quand on parle de PSQ et quand on parle
de police
de sécurité du quotidien, voilà. Tisser un lien entre la population et la police, c'est répondre au sentiment d'insécurité. Le problème, c'est que le policier est un mammifère méfiant à qui l'on a fait trop de promesses, et que quand on dit tisser un lien avec la population répondre au sentiment d'insécurité, moi je dis quelles sont les réponses pénales, qui seront ces flics, quels seront leurs moyens, parce que pour l'instant, on en est à la phase des mots. Après, il y aura la phase des actes. Mais la phase des actes coûte de l'argent. Et malheureusement...
Alors justement, parce que là aussi, vous connaissez bien la situation des policiers dans les zones sensibles. Vous avez notamment écrit un ouvrage qui s'intitulait Code 93. Oui. Et là aussi, Olivier Norek, la vision que vous livrez de la police est tout simplement désespérante.
C'est pas qu'elle est désespérante, c'est qu'à nouveau on lui demande de gérer l'ingérable. Dans Code 93, je parle du Grand Paris et du fait que le 93, avec plus de 20% de criminalité que les autres départements, va devoir être intégré comme si c'était le gendre idéal. Sauf que personne ne voudra investir et que les sociétés iront plutôt dans les plus riches et plus soyeux, 92, 94. Et donc, comment on a fait à cette époque? C'est-à-dire maintenant ça remonte à plus de 7 ans. Comment on a fait à cette époque? On a inventé une sorte de code que j'appelle le code 93. On s'est dit, s'il faut faire baisser la criminalité de 20 à 25%, alors pourquoi pas mettre à la benne la quatrième semaine d'infraction en prise de plainte. Donc ça nous fera baisser de 25%.
Et c'est ce que font les policiers au quotidien ?
Non, alors plus maintenant, parce que moi j'ai fait partie de cette police, j'ai assisté à ce fameux code 93, mais aussi à son annulation. Mais effectivement, ça a fait partie d'une des premières réponses. Si on fait baisser les chiffres de la criminalité, au lieu de donner des moyens aux policiers, plutôt trafiquons les chiffres de la criminalité. Ça a été quelque chose que Manuel Valls a dénoncé d'ailleurs à la radio. Je pense qu'il avait dit une phrase comme « Il me faudra plusieurs années pour avoir un point précis de la criminalité en France, tant les chiffres ont été malmenés ». Peut-être pas dire trafiqué, mais malmené.
Sébastien Rocher, ça vous étonne le discours d'Olivier Norek, qui est donc un discours d'un ancien policier, mais de quelqu'un qui a connu les choses de l'intérieur il y a très peu de temps?
Non, ça m'étonne pas vraiment. La police, c'est un instrument au service de l'autorité politique et c'est aussi un groupe d'hommes qui a sa culture professionnelle, ses préférences, ses attitudes. Donc, le pouvoir politique va décider de l'usage de la police. Voilà. Et à partir de là, les policiers, ils sont payés pour faire ce qu'on leur a demandé. Et
mais
ils peuvent faire
ce qu'on leur demande est impossible à faire.
Eh ben, ils vont devoir, c'est ce qui a été très bien expliqué, ils vont devoir être créatifs. Par exemple, lors de la première police de proximité en 97, le gouvernement dit...
La créativité, on va demander à Olivier Norek. Alors lui, il est créatif.
Ils inventent des solutions. Ils inventent des fausses solutions, comme pour les statistiques de police. Voilà. Si on leur dit absolument de faire quelque chose, oui, ils vont trouver un moyen de faire comme si, parce qu'ils sont bien entraînés, bien formés.
Mais non, mais là, c'est au-delà de ça, parce que la situation qui est décrite à Calais dans votre livre, Olivier Norek, consiste à dire qu'il y a un camp sur le territoire français, je crois, à Calais, où des gens se livrent à toute une série de choses qui sont des crimes, des viols, un certain nombre de choses qui sont évidemment inacceptables sur le territoire, et des policiers qui n'interviennent pas parce qu'ils ne peuvent pas intervenir, alors même qu'il y a des enfants, des femmes, bref...
C'est terrible. Il y a de la prostitution, il y a des armes, il y a de la drogue, il y a une mafia de passeurs. Mais malheureusement, on n'a pas vraiment les moyens parce que déjà au commissariat de Calais ils sont pas assez, qu'à l'intérieur ils sont 10 000. 10 000, imaginez, on ne peut pas commencer.
C'est-à-dire qu'il faudrait combien d'hommes pour s'occuper donc de 10 000 personnes, généralement dans un commissariat?
Alors peut-être que pour s'occuper de 10 000 réfugiés, il faudrait pas se poser la question de savoir combien il faut de flics. Pour s'occuper de 10 000 réfugiés qui sont des gens qui fuient des pays en guerre, est-ce que la vraie question c'est combien il faut de flics?
Mais est-ce qu'il faut pas plutôt combien
d'humanitaires, combien d'aides sociales,
vous les décrivez, ils sont là.
Ils sont là, bien sûr, mais ils sont malheureusement trop nombreux.
Les humanitaires ne peuvent faire que
l'humanitaire. Je comprends
bien. C'est-à-dire non pas faire en sorte que des enfants, des femmes soient protégés.
Bien sûr, mais alors après c'est le problème, c'est-à-dire que la police devrait être à l'intérieur et patrouiller à l'intérieur de la jungle de Calais comme si elle était partie de la ville. Sauf que la jungle de Calais, c'est une ville au black. À l'intérieur d'une ville, le plus grand bidonville d'Europe. Et si on veut n'intervenir qu'après l'infraction, c'est strictement impossible puisque les 5 piliers de l'enquête, on ne peut pas y avoir accès dans un camp de réfugiés, c'est-à-dire le témoignage, les réfugiés ne parlent pas aux policiers parce qu'ils n'ont pas confiance aux policiers. L'ADN, les empreintes digitales, sauf qu'elles ne sont pas répertoriées. La téléphonie et Internet, sauf que ce sont des cartes prépayées. Donc on ne peut pas enquêter après. Donc effectivement, dans la jungle de Calais, c'est effectivement le concept de prévention qui marcherait et sûrement pas le concept de répression.
Sébastien Rocher, on a parlé de police de proximité. Il n'y a pas que la police de proximité qui est aujourd'hui en cause au quotidien dans les missions que la police doit remplir. Il y a aussi des phénomènes qui sont plus exceptionnels, qui renvoient à des choses plus dangereuses que des petits larcins. Je pense notamment au terrorisme. Est-ce que la présence d'un risque terroriste sur le territoire modifie les missions de la police ?
Alors oui, juste un mot sur la prévention. C'est vrai que ce qui a été dit pour Calais, c'est tout à fait, c'est une interprétation tout à fait crédible. Hein. C'est pas à la police de régler les problèmes sociaux. Donc, pour assurer la sécurité, il faut prévenir. Et c'est cette culture de la prévention qui a été mise en avant en 97 et en 95 d'ailleurs par Pasqua, qui n'était pas un grand gauchiste, et en 97 par Jospin, qui aujourd'hui est à nouveau mise sur le devant de la scène pour être discutée. Bon, donc ça, c'est important. Ça s'applique effectivement au risque terroriste. La prévention du terrorisme repose sur l'information. L'information repose sur la confiance. Est-ce que vous allez dire des choses à votre belle-mère que vous ne voulez pas qu'elle sache ? Parce que vous n'avez pas confiance dans votre belle-mère, vous n'allez pas le faire. C'est le même type de logique qui va fonctionner au niveau du renseignement, je dirais, de basse intensité, du petit renseignement qu'un policier, qu'un gardien de la paix va pouvoir obtenir s'il connaît son territoire. Donc la connaissance est le fondement de la confiance, qui est le fondement de la légitimité policière. Et si on oublie la finalité, donc la légitimité, évidemment, on va pas se donner les moyens de rechercher le contact et la confiance.
Eh ben, on va poser la question à Olivier Norek. Vous voyez les choses ainsi ?
Écoute, ça a été très très bien dit et j'aurais peur de faire simplement que de paraphraser. Effectivement, le petit renseignement, parce que vous avez parlé donc justement de terrorisme et de renseignement au niveau local, un petit peu comme de la recherche de témoignages ou du porte-à-porte, effectivement, c'est le petit renseignement. Le grand renseignement se fait complètement différemment, effectivement. Oui.
Mais sauf que les deux... Alors, en apparence, peut-être que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Sauf que les deux peuvent être liés.
Les deux sont liés, bien sûr. Si dans votre ville, vous avez confiance en ces îlotiers et vous savez qu'ils sont à votre écoute, et si vous constatez qu'un tel ou un tel a un comportement déviant ou perturbant, si vous avez confiance en votre police, vous allez aller voir donc ces îlotiers, vous allez leur en parler. Si vous êtes en méfiance, si vous pensez qu'ils ne seront pas aptes ou ils ne feront rien, évidemment, vous n'irez pas à ce contact. Et c'est parfois le voisin qui nous alerte, c'est parfois le cousin qui nous alerte. C'est pas uniquement les agents infiltrés, la DGSI qui alors évidemment, c'est les premiers acteurs, mais parfois le voisin peut nous parler. Effectivement, il faut un concept de confiance, et s'il n'y a que de la répression, alors la police n'est pas non plus quelque chose de confiance.
Sur la question du terrorisme, Sébastien Rocher, qu'est-ce que ça change ?
Qu'est-ce que ça changerait, si vous voulez dire ?
Oui. Non, qu'est-ce que ça change aujourd'hui du fait du risque terroriste ? Est-ce que les missions de la police doivent être redéployées ? On a entendu dire, peut-être à tort, que les policiers n'avaient plus le temps de s'occuper des infractions banales, je mets ça entre guillemets, parce qu'ils étaient aujourd'hui mobilisés sur le risque terroriste.
Oui. Au niveau des policiers, il y a une tension qui s'est exprimée dans la rue avec un mécontentement par rapport au nombre d'heures, au non-paiement des heures supplémentaires, aux conditions de travail. Donc effectivement, ça met une organisation en tension parce qu'en fait, tout le monde est en tension. Les militaires aussi sont en tension. Voilà, ça a un premier effet sur les policiers. Ensuite, ça a provoqué des modifications dans l'organisation de la collecte du renseignement et de son traitement, avec une tentative de nouvelles formes de coordination par le président Macron, qui dit en gros, il faut que l'information circule horizontalement. Évidemment, je dois être informé parce que je suis le chef de l'État, mais il faut qu'il y ait des formes de circulation horizontale. Ça change ce type de choses-là. Et puis, toute la question des libertés. La législation française en matière de lutte antiterroriste, par exemple, est en termes légaux plus contraignante que la législation turque aujourd'hui. Donc, ça ne veut pas dire que les deux systèmes soient comparables par ailleurs. Hein, enfin, on s'entend.
Vous pouvez nous rassurer.
Et sur l'indépendance des juges, par exemple en France, etc. Mais il y a une prééminence qui est donnée à l'autorité exécutive, donc au gouvernement, par rapport aux juges et par rapport au contrôle exercé par le Parlement. Donc, on a renforcé, si vous voulez, le rôle d'initiative l'initiative du préfet, les perquisitions dirigées par les préfets, ça n'existe pas, même dans le droit turc, par exemple. Hein. Donc c'est quand même quelque chose qui est nouveau et qui mérite d'être, en tout cas, scruté attentivement pour voir comment ça va fonctionner et quels sont les bénéfices de ce type de législation.
Olivier Norek, est-ce que justement la représentation que les Français se font de leur police a changé, avec notamment le fait que les policiers soient pris comme cible dans un certain nombre d'attentats qui ont eu lieu? Est-ce que ça modifie les choses?
Écoutez, moi ça fait... J'ai été policier pendant 14 ans, je suis en disponibilité. Et parce que j'étais policier pendant 14 ans, j'étais vraiment dans le bain et peut-être que je n'ai pas vu ce que pensaient les gens de la police. Maintenant, j'écris des bouquins et je suis à la rencontre des lecteurs tous les week-ends en salon littéraire pour discuter un peu de mon travail. Et effectivement, mes livres ne parlent que des policiers. Voilà, ce sont des enquêtes de police qui présentent les policiers, notre manière de travailler, mais aussi d'être dans la tête du policier, dans le cœur et dans les tripes du policier aussi.
Ou dans sa famille, puisque par exemple dans votre dernier bouquin, vous décrivez la manière dont la jeune ado qui est la fille du policier en question, eh bien, a du mal à comprendre comment on peut être policier.
Oui, effectivement, il y a une vision du policier qui est parfois compliquée. De toute façon, est-ce qu'on peut aimer le policier en ça qu'il est le bras armé de l'État? C'est-à-dire que c'est lui qui va vous contrôler, c'est lui qui va vous mettre une contravention. C'est un peu comme un grand frère qui vous mettrait à la fois une claque et qui vous dirait qu'il est fier de vous. Et les deux en même temps. C'est vrai que c'est un peu compliqué. On ne peut pas totalement aimer la police puisque nous sommes un élément aussi de contrôle, de répression et... par le biais, par extension, de punition, puisqu'on amène devant la justice.
Pourtant, lors de l'attentat contre Charlie Hebdo, avec les suites de
on aimait la police. On aimait la police, on applaudissait à la police.
Ça a duré 15 jours
Alors, parce que c'est pas la même police aussi. La police qui vaut une contravention n'est pas la police judiciaire, qui ne sera pas la police de sécurité du quotidien. Ce sont vraiment des entités différentes, qui ne sont pas la police municipale, qui ne sont pas la police antiterroriste, ou celle des stupes, ou celle des mineurs.
Tous ces policiers ont aujourd'hui un uniforme, et ils peuvent, à cet égard, être considérés comme des cibles.
Oui, oui, les policiers. Dernièrement, on l'a vu aussi certains politiques. Oui, on est des cibles parce qu'on est les représentants de l'État et qu'en plus on a le costume, c'est-à-dire qu'on est visible, un peu comme avec une cible dans le dos. Est-ce que ça fait en sorte que la population nous aime plus? J'en ai aucune idée. En tout cas, le fait est que depuis 4 ans que je fais des salons littéraires, que je rencontre les gens, je passe mon temps à recevoir des compliments sur la police, des gens qui nous disent merci, merci. Alors souvent, effectivement, dans les manifestations, on entend la police assassine, la police ceci, cela. Je ne pense pas qu'il y ait un tel désamour de la population avec sa police.
Sébastien Rocher.
Vous avez
des chiffres.
Oui, la police, elle peut être aimée. Si c'est un objectif, c'est-à-dire si on recherche, on peut être aimé comme on aime son concessionnaire automobile, pas comme on aime sa mère.
J'ai bien compris.
Voilà. Donc l'idée que la police peut être aimée, par exemple, être un ami, c'est le slogan de la police allemande. Hein. La police, le policier, ton ami. Mais ça veut dire que c'est institutionnalisé, parce qu'il y a le niveau, ce que vous avez très bien décrit, de comment les agents vivent le fait d'être policier. Mais ensuite, la police, c'est un système, c'est un métasystème organisationnel. Il y a 240 000 policiers et gendarmes. C'est une machinerie. Et c'est une machinerie qui est branchée sur une autre machinerie, qui est branchée sur la machinerie politique. Donc ce sont deux ensembles de machinerie dans la 5e puissance économique mondiale. Donc il faut voir, c'est un jeu de mécanos géants. Et oui, les pays du nord de l'Europe, qui sont tournés vers les citoyens et vers le service, leur taux d'approbation est bien supérieur à ceux de la police française. Donc c'est possible, c'est possible.
Et vous pensez qu'une séparation...
Olivier Norek.
Et vous pensez qu'une séparation entre police et politique serait déjà un premier pas, que justement la police ne soit pas que l'objet, slash le jouet, de la politique?
La définition de la police dans les systèmes démocratiques et dans les normes internationales, c'est que la police obéit à l'autorité politique. Mmh. Maintenant, il y a des modalités de ce lien qui peuvent être se travailler. Tout à fait, ça existe. La police en Angleterre, on dit qu'elle est indépendante au plan opérationnel.
Mais
ça veut dire que c'est le chef de police qui va choisir comment faire.
Pourquoi posez-vous cette question, Olivier Norek? Parce que lorsque vous étiez policier, vous aviez l'impression d'être le jouet du politique?
C'est pas tant ça, mais c'est qu'effectivement, on répondait à des notions de chiffres, à des notions de but et d'objectifs, et qu'il aurait été effectivement agréable d'avoir aussi des acteurs de la police, des acteurs sociaux pour définir ses buts et qu'ils ne soient pas que politiques. Et puis après, il y a effectivement des notions qui font que commissaire, préfets, inspecteurs généraux sont aussi en attente parfois de mutations, d'avancements, de choses comme ça, et ils sont peut-être moins à l'écoute de leurs flics qu'à l'écoute du but, moins à l'écoute de la demande qu'à l'écoute de la faisabilité de cette demande.
Mais les policiers que vous décrivez, alors vous êtes romancier, vous n'êtes n'êtes pas chercheur, vous n'êtes pas sociologue, vous n'êtes pas là pour décrire la réalité. Vous êtes là pour souligner une part de cette réalité. Oui. Mais ils sont tous perdus, vos flics. Et ils sont aujourd'hui entre le marteau et l'enclume.
Ils sont paumés parce qu'ils sont éreintés, parce qu'on leur demande tout, parce que c'est la béquille de l'État. On leur demande de gérer. On leur demande, par exemple, de gérer les trafics du cannabis dans les cités. Mais aussi, on leur demande de contrôler la route. On leur demande de protéger la France contre les terroristes.
Ce sont les différentes missions, c'est normal.
Oui, d'accord, mais on n'est pas assez pour le faire.
Donc il y a un problème de nombre.
Bien sûr.
Parce que tout à l'heure, vous avez dit que...
Il y a un problème de nombre, parce que par exemple, regardez, le quotidien d'un flic en PJ, par exemple, dans le 93, c'est entre 12 et 14 heures par jour. Mais c'est pas un job, ça. Enfin, je veux dire, c'est 8 heures par jour, normalement, c'est pas un job de faire le double et de trouver ça naturel, de trouver ça normal. Alors, effectivement, il y a toujours... vous savez, moi aussi, hein, je suis double, évidemment, j'ai plusieurs personnalités. Parfois, je me dis qu'il faudrait plus de policiers, mais je me dis qu'aussi, la présence du policier comme un réverbère à chaque coin de rue n'est peut-être pas non plus la solution. Je vais pas vous apporter, en tout cas, la solution ce matin, et j'en suis vraiment désolé.
Un mot de conclusion,
oui,
Sébastien Rocher.
Sur les effectifs, moi je pense qu'on a suffisamment de policiers, simplement ils sont mal répartis. Donc ça, on peut tout à fait ne pas avoir assez de policiers dans le 9-3, et je suis complètement d'accord pour dire que la police n'est pas la solution au malaise socio-économique, au problème des migrations en elle-même. Mais on peut ne pas en avoir assez. La question c'est comment on répartit différemment d'aujourd'hui, d'accord, et comment aussi on améliore la productivité des policiers, notamment par l'utilisation des nouvelles technologies. Et ça c'est aussi, il y a des gains de productivité à faire, comme à l'université, comme dans la médecine, etc., comme dans d'autres métiers, c'est pas dramatique.
Sébastien Rocher, Olivier Norek, vous restez avec nous. Olivier Norek, vous venez de publier Entre deux mondes, un très bon roman policier qui se déroule à Calais et qui montre en quelque sorte les dilemmes moraux qui peuvent se poser lorsqu'on est policier dans la situation de Calais, alors que cela fait un an que le camp est censé avoir été évacué, comme le montre la une de Libération, n'est-ce pas, Alexandra,
oui,
Schwarzbrod,
je vais vous en
vous entendrons
aussi
tout à l'heure.